monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre de notre thématique consacrée à l'initiative pour des multinationales responsables, nous accueillons aujourd'hui Léna Furlan pour une lecture d'article suivie d'un bref entretien. L'intérêt de cet entretien nous est apparu dans le contexte de l'enregistrement de la lecture et de certains propos mettant en évidence la question de savoir comment une adolescente se situait par rapport à cette question. Nous commençons donc ce billet avec la lecture de cet article.
Dis papa, à qui on paye ? De Michel Beau. Un enfant et son père se promènent dans la campagne. Soudain, l'enfant s'arrête, inquiet, et demande. Dis papa, à qui on paye ? Parc de loisirs, piste de ski de fond à péage, plage payante. De moins en moins d'activités en plein air échappent à l'argent. L'eau de la fontaine était gratuite. Dans les villes, des porteurs d'eau en vendirent assez tôt la livraison. Aujourd'hui, l'eau du robinet est payante parce qu'elle est devenue une marchandise produite. Et la vente, en bouteilles, bonbonnes ou fontaines pour les collectivités, des eaux minérales ou de sources, progresse dans tous les archipels d'opulence de notre monde. Tandis que, dans de nombreux bidonvilles, le contrôle d'un robinet d'eau douteuse est occasion de raquettes. La production de l'eau potable est devenue une activité économique à part entière. Demain, pour certains pays, ce sera son importation. Un processus semblable a commencé pour l'air. Air purifié, bouffées d'oxygène payantes à certains carrefours de Mexico, constructions de plus en plus nombreuses impliquant l'air conditionné, projet de cité artificielle que préfigurent quelques prototypes. Insidieusement se met en place l'air marchandise. Prenons la santé. Apparemment, il a toujours fallu payer médecins et apothicaires. En profondeur, tout a changé. Système de santé de plus en plus coûteux, enjeux de recherche, de production et de marché de laboratoires pharmaceutiques. Lobbies médicaux. En témoigne l'affaire de contamination du sang de la transfusion. Ses racines profondes, intérêt national, nécessité d'écouler les stocks, compétition des laboratoires, relèvent de l'économie avec l'entrelac des trois logiques, l'étatique, capitaliste et marchande. En témoigne aussi la multiplication des affaires d'argent touchant la médecine, la chirurgie, la procréation, les prélèvements d'organes ou de tissus. L'argent domine, comme il tend de plus en plus à le faire, pour l'éducation et la formation, la presse, la culture, l'art, le sport, les loisirs. De même, dans le domaine du stockage, de la diffusion ou du traitement électronique des informations. On aurait pu imaginer que s'instaure une gratuité de type service public ou d'un type nouveau. Mais ce sont les logiques du marché et du profit qui prédominent. Un petit nombre de groupes capitalistes pesant à la fois sur l'essor des besoins, la définition des normes et la structuration de l'offre. Ainsi s'élargit, se renforce le règne de la marchandise. Ce n'est plus principalement à travers la multiplication et l'amoncellement des marchandises matérielles, comme on a pu le pressentir au XIXe siècle et l'observer au XXe siècle, au plus beau jour de la société de la consommation. Ce sera, cela commence à l'être, la marchandisation de tous les moments de la vie des hommes, de toutes les fonctions des sociétés et, de plus en plus, de toutes les dimensions d'une terre réduite à n'être que l'environnement des hommes. Le terreau du capitalisme généralisé et la généralisation de la marchandise, celle de l'homme-marchandise, santé, commerce du sang, des organes, de la procréation, avec, pour demain, la perspective de la gestion génétique de toute son existence. Des fonctions sociales, éducation et information, connaissance et gestion de l'opinion, avec en perspective la gestion de la décision politique, des tensions et des conflits, des activités humaines supérieures, recherche scientifique, élaboration des savoirs, des œuvres intellectuelles et artistiques, avec en perspective la gestion des principes et des valeurs, des relations à la nature, anti-pollution, production et urbanisation non polluante, avec en perspective la gestion de la planète, etc. Les firmes ont su s'imposer des monopoles, exacerber et multiplier les besoins, créer des nouvelles raretés. Et nous voici pris, à nouveau, dans presque tous les moments de notre vie, dans la dépendance de nouveaux matériels, de nouveaux logiciels, de nouveaux besoins d'information, de nouvelles attentes, de nouveaux espoirs, qui nous enserrent dans des raies innombrables, nouvelles dépendances, nouvelles aliénations. Compte tenu des caractères de la marchandise généralisée, être à la pointe de ce capitalisme généralisé implique d'être maître des nouvelles avancées technologiques, informatiques, avec la gestion des systèmes complexes, télétransmission, avec les nouvelles perspectives de la numérisation, biotechnologie, avec les cartographies et thérapies génétiques, technologies qui, pour nombre d'applications, se rejoignent ou se combinent. Un nouveau capitalisme va dominer le monde, et dans nos sociétés, élément décisif du basculement du monde en cours.
Merci Léna pour cette lecture. Tout d'abord, pourrais-tu te présenter ?
Alors, je m'appelle Léna Furlan, j'ai 19 ans et puis je suis étudiante à l'Institut littéraire suisse, qui est en gros la haute école d'écriture suisse, pour ceux qui ne savent pas. Et puis je vis à Lausanne.
Alors, pour commencer l'entretien, la question que j'ai envie de te poser au début, c'est est-ce que tu as une opinion au sujet de la politique ?
Oui, je dirais que oui. Enfin, la politique, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup par rapport à, aux questions sociales qu'on se pose tous les jours. J'ai l'impression que la politique, aujourd'hui, c'est vraiment partout où on en parle à l'école, même si les profs sont censés être apolitiques, apolitisés. Mais j'ai l'impression qu'on baigne vraiment dans un monde où il est toujours question de politique, et maintenant, en plus... il y a de plus en plus de manifestations, que ce soit pour le climat, que ce soit pour l'égalité des sexes, pour aussi vraiment toute une question de place sociale qui est en train de se poser. Et puis je trouve ça vraiment super intéressant et hyper important. Et je trouve aussi très important que les jeunes s'intéressent à la politique parce que ça sera aussi notre rôle plus tard. Et puis on a également notre mot à dire. C'est pas seulement à des gens qui ont l'expérience non plus de parler, parce que certes, quand on a de l'expérience, on est plus doué, mais avoir...
Pas forcément plus doué, on a un vécu, simplement.
Voilà, exactement. Mais du coup, d'avoir uniquement des personnes qui ont un vécu au niveau de la politique ou qui ont le même statut social, par exemple, qui viennent de milieux plutôt aisés, qui sont... ça donne pas vraiment de point de vue très divers... dans la politique.
Donc tu fais référence à une pluralité d'opinions, et puis surtout à... Bon, il faut quand même dire que le côté enraciné de la politique a quand même changé depuis un peu les années, 70, où il y a toute une nouvelle classe de jeunes qui est entrée en politique. Ouais. Avant, on parlait des vieux, des indéboulonnables, il y a quand même eu du changement. Mm-hmm. Après, ce changement peut être positif ou négatif, mais en fait, la question pour toi, la remarque que tu fais, c'est que tu trouves que c'est important que les jeunes s'impliquent dans la mesure où vous soyez à même et formés pour prendre une place effective et agissante au sein de la politique, en fait.
Oui.
Ouais, d'accord. Ouais. Mais quand juste une petite question annexe, quand tu disais avant, dans le cadre de l'enseignement, que les profs étaient censés être apartisans, est-ce que quand tu dis est censé, c'est que tu as l'impression que des fois ils donnent une coloration partisane ? Ou dans quel sens tu disais sont censés ?
Non, j'ai jamais eu des profs qui étaient vraiment où on sentait très
partisans.
Très fort leur. Voilà, exactement. J'ai eu certains profs qui faisaient partie de partis politiques, qui nous l'ont dit,
pour être honnête. Soit cash,
ouais. Mais qui nous ont dit moi je donne mon cours sans vouloir vous influencer, etc. Mais forcément, quand quelqu'un qui a un avis politique assez prononcé donne un cours sur la politique, ça va se ressentir. Ça se ressent dans les discussions aussi de tous les jours. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut quand même assez bien cerner les gens politiquement. Enfin, ça dépend. Mais c'est inévitable. Je pense pas qu'on puisse être entièrement...
Libre de ses opinions, quoi. Exemple de laisser transparaître ses opinions.
Oui, ça transparaît toujours.
Oui, je pense que c'est vrai.
C'est aussi une bonne chose, c'est pas forcément négatif. C'est...
Tant que c'est pas l'homme égal, non.
Oui,
c'était,
exactement.
C'était un peu ça ma question.
Voilà, voilà. Non. Alors ça, c'est...
Ah, ça, t'as pas eu.
J'ai pas eu.
Y a pas eu, d'accord. Et t'as pas eu autour de toi des échos de choses se produisant alors dans ce sens-là, quoi. T'as pas eu des amis ou des camarades de classe, par exemple.
J'ai l'impression qu'on m'a raconté des histoires, mais alors...
Vrai ou pas ?
Voilà, exactement. Donc, je ne peux pas m'avancer sur des
d'accord.
choses...
Donc toi, tu as eu le sentiment d'avoir reçu, en guillemets, une formation politique suffisante et assez neutre.
Je dirais pas suffisante.
Pas suffisante, d'accord. Okay.
Si on prend pas économie et droit à l'école, à part citoyenneté qu'on a seulement, on a seulement une année, un cours de citoyenneté quand on a 15 ans.
Oula.
Et ensuite, quand on a 16 ans, on a un cours d'économie et droit qui est pour tout le monde, qui traite de politique, et autrement, on n'a rien du tout. Donc,
et avant ces 15 ans, il n'y a rien ?
Ah non, avant...
Il n'y a pas les cours d'éducation civique ?
Non.
Non ?
Non, on n'a pas... On a
ça
pas,
a dû disparaître, ça, parce qu'il me semble qu'il y avait.
Les profs de géo sont censés un peu amener le sujet.
D'accord.
En troisième année de gymnase, on avait un cours de géo qui traitait de...
Tu parles déjà du gymnase, là.
Oui, alors avant le gymnase, à part...
École primaire ?
École primaire, non, rien du tout.
Rien du tout ?
Non, bien sûr que non. Donc, peut-être que c'est aussi trop jeune, mais...
Je sais pas. J'ai mes souvenirs sont plus assez précis sur cette question. Il me semble qu'il y avait quand même, mais c'est possible que c'était plus tard. J'ai vague souvenir de cours d'éducation civique ou de formation. Je me rappelle plus l'intitulé exact, mais quelque chose qui allait dans ce sens-là.
D'accord.
Mais il est vrai que mes souvenirs sont un peu émoussés. D'ailleurs, j'aimais pas beaucoup l'école. Bon, donc effectivement, on peut déduire, c'est disons à partir du moment où tu es censé entrer en grande maturité. Qu'on commence à vous parler de ces questions-là, quoi.
Voilà.
Si on résume.
Assez brièvement et sans...
Enfin, sans approfondissement spécifique.
Ça serait plutôt à l'extérieur, avec la famille ou avec des gens
Ah, voilà. Adultes. C'est plutôt là que tu l'as faite.
Voilà, exactement. Ah,
ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu imagines qu'il existe un lien entre politique et économie ?
Oui, forcément, puisque politique et économie, c'est deux notions qui sont un peu indispensables dans la société. Je ne suis pas très économiste dans mon...
Dans ta formation,
dans ma formation,
pensée,
dans ma pensée non plus. Ouais. Je suis... bah, en même temps, je n'y connais pas grand-chose, donc je ne peux pas dire énormément de choses là-dessus, mais évidemment qu'elles sont liées. Après, est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne suis pas sûre non plus. Mais en même temps, c'est inévitable, donc...
Tu penses pas, alors je vais orienter le débat parce que je peux pas m'en empêcher. Est-ce que tu penses pas que la politique est subordonnée à l'économie ? On va être plus précis dans les questionnements, puisque tu te poses des questions apparemment justement sur le lien qui peut exister.
Oui, bah les deux sont.
Quand tu dis les deux sont liés, mais la notion de subordination implique une obéissance d'une part à l'autre. Ou disons en tout cas une certaine soumission, si tu veux.
Oui, bah alors j'espère pas, mais j'ai l'impression que c'est quand même malgré tout, c'est ce qui se passe, parce que j'ai l'impression qu'on est dans une société où on pense à l'argent d'abord, à est-ce qu'on aura assez d'ABS, est-ce qu'on va pas perdre de l'argent, est-ce que les salaires vont pas baisser, est-ce que je peux faire un métier qui me fait gagner de l'argent, enfin... Même chez les jeunes, je connais des gens qui ont changé de formation quand on leur a dit qu'il y avait 50% de chômage à la fin, si c'était leur profession qui avait changé pour aller dans une autre formation.
Mieux payé.
Bon, HEC par exemple, où ils sont sûrs.
Ah ouais, là alors je pense que... Ouais.
Donc c'est quand même une
question. Donc tu sens quand même quelque chose qui va dans ce sens-là, quoi. De toute façon...
On choisit l'économie avant tout, j'ai l'impression.
Ouais, d'accord, ok, c'est ça. Une question plus générale maintenant, qu'est-ce que tu penses de la façon avec laquelle la jeunesse actuelle est informée ? Est-ce que tu parais juste, biaisée, insuffisante, trop abondante même ? Mais déjà peut-être à dire, est-ce qu'elle te paraît juste ou biaisée ? Est-ce que tu as l'impression d'être bien informée ?
Alors, bah comme on le disait avant, à l'école on ne nous a pas spécialement bien informés.
Outillé,
hein ? Voilà. On a eu les bases, mais ça s'oublie quand même assez vite si on n'est pas actif dans la vie.
Actif dans la branche, ouais, d'accord.
J'ai l'impression que c'est à partir du moment où on a le droit de vote que justement on commence à avoir plus d'informations aussi sur les initiatives, sur les votations, tout ça.
Via les médias les... ou via du courrier personnel ou des...
Voilà, via les enveloppes électorales,
ouais, via... Les enveloppes, ouais, d'accord, les bulletins. Gens,
voilà, exactement.
Okay,
et puis aussi les pétitions dans la rue, les initiatives, tout ça. parce qu'on ne peut pas le signer avant qu'on ait 18 ans, donc c'est comme si ça ne nous concernait pas. Et ça, je trouve ça,
c'est faux. C'est faux.
Voilà,
c'est
exactement. Faux. Mais c'est en train de changer, justement, grâce aux manifestations. Où c'est,
par la force des choses.
Exactement. Où on se force un peu une place dans la politique qui a quand même été vraiment...
Dont on vous a évacué.
Voilà, exactement.
Ouais, mais c'était déjà le cas pour nous, quoi.
Oui, exactement. Du coup, elle me paraît pas suffisante, mais j'ai l'impression que ça... Après, sur les réseaux sociaux, sur les médias, etc., on peut s'informer nous-mêmes. Et là, il y a beaucoup d'informations, mais c'est difficile aussi de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux.
Ce qui est la grosse question actuellement. Quoi.
Voilà, exactement.
La pléthore d'informations, mais comme tout le monde a tendance un peu à mentir.
Ouais, tout le monde a son opinion, donc tout est biaisé. Donc j'ai l'impression peut-être que c'est un mélange entre pas assez d'informations et trop d'informations d'un côté. Donc on est un peu dans une sorte de phase de
transition, dans un flou.
J'ai l'impression. Ouais. Ouais,
dans un flou. Ouais, d'accord. En relation avec cette question, penses-tu que l'information et donc la communication de nos jours, ce qu'on appelle aussi sensibilisation, peut suffire dans le cas où un changement d'orientation de la structure sociale est vraiment souhaité ? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'informer et que les gens soient informés sur une question peut suffire à générer de leur part une attitude et des comportements qui correspondent vraiment à ce besoin de changement ?
Je pense que c'est un premier pas, c'est sûr, et que ça a quand même un grand rôle. Enfin, si on n'est pas informé, on ne peut rien faire. Donc déjà, être informé, ça permet d'être conscient de certaines choses et d'essayer de faire des choses pour changer, pour justement organiser un changement social, enfin une révolution sociétale, je ne sais pas.
Ouais, structure, structurelle.
Voilà, exactement. Donc c'est déjà bien. Après, est-ce que ça suffit à convaincre tout le monde d'agir ? Non, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a aussi une certaine pression sociale par rapport à qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est juste de faire. C'est aussi, ça va aussi avec des effets de mode. Et ça peut avoir un côté négatif, mais aujourd'hui, si on axe la, entre guillemets, mode... Sur des choses importantes comme sur l'environnement,
dans
sur la responsabilité,
ouais.
Responsabilisation politique, etc. C'est un côté positif qui est une sorte d'effet de groupe qui... Alors que c'était négatif, voilà.
Alors que c'est négatif à la base, que ce soit de la mode,
exactement.
Tu dis autant cette mode que des fringues, quoi.
Voilà,
si
ouais,
je résume. Si je résume.
Ouais, c'est ça.
Je résume. Donc, d'accord, ok. Mais juste alors peut-être une petite parenthèse. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une légère incompatibilité dans le fait de ce que tu disais avant, qui je pense est avéré, à savoir une information pléthorique qui est quand même, dans laquelle il est difficile de se situer et est-ce que tu ne penses pas que ça peut aussi induire une désorientation ou disons une inhibition sur une volonté d'action, puisque c'est difficile, c'est peut-être tout aussi difficile d'agir si tu ne sais pas sur quelle information tu peux t'appuyer que si tu n'en as pas du tout, ou non.
Oui, mais si on n'a aucune information, on ne va pas agir, parce que du coup, on n'a pas d'information là-dessus. À moins qu'on le sache, mais qu'on ne reçoive pas d'information.
Donc tu ne penses pas qu'il y ait une capacité individuelle, intuitive, de l'être humain à prendre conscience que ce qu'il voit de ses propres yeux ne correspond pas à ce qu'on lui dit de ce qui existe.
Si, quand même. Oui, évidemment.
D'accord.
Mais
ça ne suffira pas pour le guider.
Pour un mouvement de masse, ça ne suffira pas. Parce
okay.
qu'il faut que,
D'accord.
Parce que pas tout le monde est conscient de ça.
Ouais.
Donc, on peut être conscient de certaines choses et aussi se dire non, mais c'est juste moi. Alors que s'il y a vraiment des informations qui sont accessibles. Ça va devenir plus ancré et
on élargit.
Ah ok, c'est pas seulement moi, c'est aussi.
Et fait aussi des dramatisations d'une sensation d'isolement ou de choses comme ça,
oui,
quoi.
Voilà. Ouais,
d'accord.
C'est okay. Pas juste une intuition,
c'est ce qui se passe. C'est confirmé par l'extérieur, donc je peux y croire, quoi.
Voilà, exactement.
Ok, d'accord. Bon, pour en venir au sujet de cette émission, donc de l'initiative pour des multinationales responsables, est-ce que tu étais informé de l'existence de cette initiative avant cet entretien ?
Oui.
Oui.
Parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de petits drapeaux aussi affichés.
Ah, d'accord, ça je connais pas. D'accord, ok.
Oui, j'en ai vu pas mal.
Et puis, j'en ai entendu, mais c'est quand même assez... Enfin, j'étais pas non plus complètement au courant de ce que ça concerne.
Des enjeux.
Exactement, voilà. Et c'est encore... C'est assez complexe comme...
Oui, c'est complexe, puisque même les gens qui maîtrisent, entre guillemets, le sujet, enfin, ouais. Tu vois, ça fait des années que c'est en route, donc oui, c'est complexe. Ben, c'est complexe pour les mêmes raisons que tu as données avant, à savoir que ça met en scène, enfin, ça met en confrontation les envies, on va dire, de conscience de la population avec les contradictions de ses exigences de confort matériel. Oui. Ouais. C'est déjà rien que là... rien que là, c'est déjà compliqué, quoi.
Ouais.
Donc après, quand tu sais, effectivement, les puissances que tu as en face de toi, ben ouais, je crois que tu mets le doigt dessus, c'est un truc compliqué. Et en plus, alors là, qui fait l'objet de beaucoup d'informations contradictoires, en plus, effectivement. Alors sinon, par exemple, est-ce que tu étais au courant des critiques adressées à l'égard des comportements de certaines multinationales ?
Oui, j'ai entendu parler aussi de pas mal de boycotts, justement, à cause des actions des multinationales. Mes grands-parents qui boycottaient Nestlé.
Ah ouais, puis, ouais. D'accord.
Du coup, j'en avais entendu parler comme
ça. T'as été sensibilisée, là, alors.
Voilà, un peu, quand même. Ouais. Et on entend assez souvent des gens qui gueulent contre
bah ouais.
les multinationales. Donc, ouais. C'est quand même assez courant, mais j'ai l'impression que c'est en train de devenir encore plus actuel aujourd'hui, encore plus mis sur le tapis.
Il y a un rebond, il y a un effet rebond avec l'initiative, avec tout ça, quoi.
Oui.
Et les pratiques, je pense qu'elles se sont peut-être encore détériorées, c'est
exactement.
Possible, mais elles sont effectivement pas nouvelles, ça c'est vrai. Donc, tu étais aussi au courant des rapports Nord-Sud, oui. Des rapports de ce qui n'est pas cher chez nous, c'est les autres qui le payent, enfin, oui. Ces questions-là, quoi. Sur le plan de l'initiative en elle-même, Pour entrer dans la question de l'initiative, il existe actuellement un tribunal international construit en dehors de toute légitimité démocratique et qui peut intenter des procès à des États. Savais-tu cela ?
Non.
Non.
Non, je ne savais pas.
Alors, pour faire court, je te dis juste de quoi il s'agit. C'est imaginons qu'une multinationale subisse un contre-coup sur ses bénéfices. Une mesure qu'un État prend, soit par rapport à un traité qu'elle a passé au préalable avec cette multinationale et qu'elle souhaite désactiver pour les raisons d'améliorer, par exemple, les conditions de vie de sa population. Imaginons qu'une de ces multinationales intente, enfin, c'est pas imaginons, c'est cette multinationale qui estime que ses intérêts sont lésés par une décision d'un État, intente un procès à un État. Ce procès, il a lieu sous l'aile d'un tribunal qu'on appelle un tribunal arbitral. Et ce tribunal arbitral est composé, disent-ils, de 3 juges, qui en réalité sont la plupart du temps des avocats d'affaires, qui pour un représentent l'État incriminé, pour l'autre représentent la défense de la multinationale, et pour le troisième un juge. Voilà en gros ce qui se passe. Donc c'est un tribunal, si on veut bien, qui n'a pas de légitimité juridique, c'est un tribunal privé, qui prend en charge ce litige et qui peut infliger une amende qui peut aller jusqu'à des milliards. C'est très courant que ce soit des milliards qu'ils exigent en guise de dédommagement ou pour les frais de procédure, qui vont exiger à cet État. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça ?
Mais c'est le monde à l'envers, en fait. C'est ce que l'initiative essaie de faire, mais à l'envers, justement, de pouvoir, nous, intenter des procès aux multinationales, ce qui est normal, ce qui devrait complètement déjà être le cas, que c'est des mesures qui auraient déjà dû être prises, logiquement. Parce que c'est complètement absurde, l'idée qu'une multinationale qui est en train de polluer, de tuer des gens, littéralement, soit encore capable de faire un procès et de gagner, et de mettre un État en dette, par exemple, juste à cause de ça.
Et est-ce que la question de savoir, parce que moi ça m'interpelle, et ça m'intéresse de savoir si toi ça pourrait t'interpeller, est-ce que ça ne t'interpelle pas de savoir comment est-ce qu'une telle chose a pu s'organiser, se mettre en place, et finalement, d'une certaine manière, être légitimée finalement par la société dans laquelle on vit, parce que si elle peut opérer, ça veut dire qu'il y a un consensus global qui accepte que, puisqu'on doit lutter contre. Ça veut dire qu'en amont, bah, on l'a laissé faire, en tout cas.
Ouais.
Est-ce que ça ne t'interpelle pas, la question de savoir comment, entre guillemets, une telle monstruosité a pu se mettre en place ?
J'imagine qu'on a donné beaucoup trop de pouvoir aux multinationales parce qu'elles amenaient de l'argent, par exemple elles amenaient de l'argent en Suisse, elles amenaient justement des employés qui arrivent dans cette multinationale, la multinationale qui leur achète des appartements très chers, qui louent des appartements très chers, donc... Un enchaînement où au final on dépend des multinationales, donc on leur a donné trop de pouvoir et maintenant bah, c'est une sorte de...
De pouvoir.
Bah voilà, c'est exactement, c'est un pouvoir au-dessus de l'État et c'est complètement absurde que quelque chose de commercial soit au-dessus de l'État, quelque chose qui...
Mais donc tu es consciente qu'on a contribué quand même d'une certaine manière à ça, d'après ce que tu dis, quoi. Puisque cette puissance des multinationales, c'est nous qui la leur avons fournie.
J'ai l'impression que c'est une très mauvaise décision qui a été prise de la part de l'État et peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte tout de suite des impacts que ça allait avoir.
Alors, si tu veux, c'est les enjeux, enfin, les comment dire... Les responsabilités sont quand même multiples, parce que c'est vrai que si les États ont commencé à préférer attirer de l'argent des banques et plutôt que des impôts et des moyens légitimes de disposer d'argent, il y a eu effectivement une volonté politique, mais disons que ces multinationales ont pu devenir ce qu'elles étaient de par le fait qu'en nous proposant des articles meilleur marché, le public a quand même été d'accord d'acheter tout ça sans se poser de questions de savoir comment ça pouvait être meilleur marché. Or, cette question-là, n'importe qui pouvait se la poser. Pourquoi est-ce qu'une chose qui doit coûter tel prix coûte trois fois moins, c'est pas un miracle qui tombe du ciel. Il y a bien quelque part... Donc voilà. Cette initiative, elle propose d'utiliser le levier politique de la démocratie pour fixer un cadre de régulation aux activités des multinationales. Penses-tu que cette voie puisse aboutir, c'est-à-dire donc d'utiliser la politique, donc l'initiative, pour exiger des multinationales qu'elles cessent leur comportement déviant, on va dire ça comme ça.
Mais j'espère, j'aimerais bien, ça serait génial.
T'aimerais bien, d'accord.
Mais après, dans les faits, c'est plus compliqué, j'imagine bien, puisque ça, on parle de milliards.
On parle de milliards, et qui concernent tout le monde.
Voilà, exactement.
Et qui concernent tout le monde.
Donc, j'ai envie que ça marche et je trouve que enfin nous en tant que population on a totalement notre mot à dire et que c'est complètement absurde en fait ce monde dans lequel on vit là actuellement avec ces multinationales qui sont plus hautes que l'État, ça n'a aucun sens et c'est évident qu'il faut changer ça et c'est juste qu'on est tellement un peu englué et on s'est un peu
englué, ça c'est sûr,
empêtré dans ce système qui nous empêche d'en sortir en fait.
Mais est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'à cette mesure, il faudrait sortir d'autres choses, une des possibilités, une des alternatives qui existeraient aussi, par exemple, ça pourrait être de dire un boycott, c'est-à-dire que si on boycottait les produits de luxe, je dis bien les produits de luxe, on n'arriverait pas à tout boycotter parce qu'elles ont une telle emprise, surtout que... Mais disons, on pourrait déjà au moins agir sur les produits de consommation, de luxe ou de prestige ou de bien-être social ou je sais pas, de confort, enfin de superflu. Est-ce que tu ne penses pas que si parallèlement à ça, nous-mêmes on appauvrissait les multinationales, est-ce qu'elles ne perdraient pas de la puissance aussi?
Oui, j'imagine. Ouais, c'est
est-ce
sûr.
Que tu penses que ça peut avoir lieu?
Il faudrait un mouvement de masse, de boycott.
Ouais.
Et en fait, le risque qu'il y a toujours, et je pense qu'il rend les choses compliquées, c'est que j'imagine qu'une multinationale pourrait juste décider de « Ah, ben, puisque plus personne n'achète ici, ben, on va se délocaliser, ils vont se mettre dans un autre pays où il faudrait recommencer à zéro. » Il faudrait...
Oui et non, parce que si tu veux, la multinationale se délocalise ou elle est itinérante du point de vue de ses intérêts, mais elle vend mondialement.
Oui, ah, il faudrait un boycott mondial, tu dis.
Ah, bah ouais.
Ah oui, ah, dans ce cas-là, oui, clairement, oui, oui.
Bah oui, parce que si on prend le cas des, de Monsanto, et qui en plus, je crois, d'après ce que j'ai entendu récemment, a été racheté par un autre, puis à parce qu'ils ont aussi cette manie, c'est quand ils sont trop mal vus, ils changent de nom, ils se font racheter, puis ils changent de nom. Et je crois que moi, c'est ce que Monsanto a fait, si je me souviens bien. Donc, si tu veux, ben oui, ces entreprises sont itinérantes pour des raisons de coûts, de profits et tout, mais leur objectif, c'est évidemment de bouffer leurs concurrents, quoi.
Oui.
Et donc de vendre partout dans le monde, puisque c'est ça, le but actuel, c'est ce qui fait l'enjeu de ces multinationales, c'est les parts de marché, c'est leur but ultime, quoi.
Oui, du coup, si on parle à l'échelle mondiale, un boycott, ce serait l'idéal, ce serait...
Et est-ce que toi, en tant que Léna Furlan, t'aurais une idée, par exemple, pour essayer de promouvoir une idée de ce type? dans l'opinion publique.
Pour promouvoir cette idée de
boycott sur les produits de luxe, sur ces choses-là.
Je pense que c'est une information qu'il faudrait faire circuler, comme circulent les informations aujourd'hui avec les grèves pour le climat, avec les manifestations, etc. C'est toutes des informations qui circulent en ligne et malgré tout le mal qu'on peut dire sur Internet, etc., c'est quand même un excellent moyen pour faire parvenir des informations mondialement et rapidement et sensibiliser un maximum de personnes à une cause.
Mais est-ce que tu penses que dans ce cas-là, pour en revenir à la sensibilisation, par rapport à des enjeux tels, alors je ne parle pas des pays pauvres qui de toute façon n'ont pas grand-chose à perdre, mais pour des pays plus nantis tels que la Suisse, l'Occident en général, l'Europe en tout cas, où on est, comme tu utilisais le terme d'englué avant, on est vraiment sérieusement englué dans nos habitudes confortables. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que ça peut suffire? Parce que les raisons, ils les connaissent maintenant, comme tu l'as dit. La problématique des multinationales a été soulevée. On peut dire que dans les pays dits informés, cette question-là, elle est largement connue. Et donc, conscientisée par une grande partie de la population. Malgré tout, est-ce que tu penses que le fait de leur redire ces choses-là, parce que c'est en fait ce qu'on fera ou ce qu'on ferait, pourrait suffire à les mobiliser pour qu'ils renoncent à certaines parties de leur confort quotidien ou de leurs habitudes quotidiennes? Ou est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il faudrait quelque chose d'autre pour les motiver?
Je pense que ça doit être un mélange de choses, mais que s'il y a une sensibilisation qui est assez forte, qui est vraiment où il faudrait se concentrer là-dessus, sur faire circuler plein d'informations à ce sujet, moi je pense que ça peut marcher en grande partie. Et puis évidemment, si les États font aussi un geste, ce qui est un peu aussi une des premières choses à faire, ça peut complètement aboutir à ce boycott,
à cette mobilisation globale.
Exactement.
D'accord.
Mais seulement si vraiment. Si l'accent il est vraiment mis sur ça, en fait, si ça devient un sujet vraiment
central
dont on entend parler constamment, je pense que
ça pourrait, ouais. D'accord, ok,
ça me paraît possible.
Du coup, je crois qu'on arrive gentiment au terme de notre question. Là, peut-être la dernière chose que je pourrais te demander, maintenant que tu es plus ou moins au courant de cette initiative, est-ce que tu te positionnes, toi, maintenant, personnellement par rapport à ça? Est-ce que ça te donne envie de t'informer plus à ce sujet ou je sais pas, d'agir? Enfin, est-ce que ça te donne des envies? Ou est-ce que ça contribue simplement à une amélioration de ta conscience sur ce sujet? Voilà, on peut dire ça comme ça.
Non, ça me motive à aller chercher les noms, justement, des multinationales.
Incriminées, par exemple.
Voilà, exactement. De savoir qui boycotter.
D'accord.
D'essayer de le faire, parce que c'est tellement important. Et ça me paraît complètement aberrant qu'on vive encore dans un monde comme ça. Donc,
alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ça me donne envie de vraiment agir par rapport à ça.
Et donc, si un jour il y a une manif hyper carnavalesque, festive et tout sur le sujet, tu y seras?
Oui.
Bon.
Absolument.
Ouais. Léna Fiolo, je te remercie d'avoir participé à cet entretien. C'était intéressant. Et puis, tout de bon pour la suite de ton existence, on va dire ça comme ça.
Merci beaucoup, à toi aussi.
Merci.
Ci digante marak masé bi jululi souf cédé jlengawon tou fatou mi ngi don garé.
Au terme de ce billet, nous remercions l'équipe de Radio Django qui nous permet de poursuivre l'émission. À la conception, réalisation de cette thématique et à sa mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Rédacteur responsable, Patrick Rion. À la semaine prochaine.
ñi ngi lakatu won di xol li nga xamanteni mi yaangi doon wañeku bi jolol yu nekk ci xew diri ci taw bi nga law yiru jolol yu leer nekk ci kawam di tabbi ah dirir ngir ki bañ di yombu ngir ki lopp di yombu ki ñak chance ñi ñu fatte ñi ñu wor di yombu ngir ñi ñu beddi yak ko lak muy dundé
and we gaze upon the chimes of freedom flashing.
Ñu ñi xol le rayu lirir ngir liberté. Ñu ñi xol le rayu lirir ngir liberté.